tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Atari, dans lequel on va parler de Jury numéro 2, le nouveau film de Clint Eastwood, en compagnie de Josué Morel.
Salut Clément.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Criticat fête ses 20 ans et va pour cela sortir un numéro papier. Je te laisse Josué nous présenter un petit peu ce projet.
Alors oui, c'est un projet qu'on mûrit de longue date pour fêter les 20 ans de la revue. On s'était dit qu'on voulait marquer le coup, de faire quelque chose pour cet anniversaire, et on s'est dit qu'on allait renverser un petit peu l'horizon généralement de quand une revue fête ses 10-20 ans, il y a une logique un peu rétrospective. Et donc nous, on a décidé par pur esprit de contradiction de faire l'inverse, c'est-à-dire de s'imaginer ou du moins de se projeter dans un futur, dans 20 ans, et de se demander donc en 2044 à quoi ressemblera le cinéma et comment peut-on imaginer le cinéma de cette période incertaine. Et donc pour ce faire, on a à la fois posé la question à beaucoup de cinéastes, donc il y a Albert Serra qui nous a répondu, Happy Chapong, Vera Stakul, Nicolas Pariser et bien d'autres. On s'est aussi posé la question, nous en tant que critiques, avec notamment une enquête assez longue sur l'intelligence artificielle, une table ronde aussi où on débat de ces questions. Et puis on est aussi revenu sur plein de tendances contemporaines du cinéma qui nous permettent de... Moi, une question qui, en tout cas, m'intéresse beaucoup, qui nous intéresse beaucoup globalement à Criticat, c'est-à-dire à quoi ressemble le cinéma là maintenant, formellement, qu'est-ce qui se joue, et donc de le faire avec des films qui sont sortis ces derniers mois et qui nous permettent aussi de réfléchir en pensant le présent du cinéma, à la fois à son passé, mais aussi à son futur. Et puis, plein de surprises que vous découvrirez dans ce numéro. Notamment, on a aussi imaginé un petit ensemble où on prélève 20 films qui, pour nous, tracent une voie future pour le cinéma et qui dessinent en tout cas des horizons esthétiques que d'autres films, quelque part, pourraient explorer ou de méthodes dont ils pourraient s'emparer.
Merci Josué, et puis vous pouvez retrouver toutes les informations pour commander ce numéro dans la description de la vidéo. Pour revenir maintenant à Eastwood, et donc à Jury numéro 2, donc Eastwood revient avec un nouveau film, ça fait depuis quelques temps qu'il s'intéressait notamment à la question un peu des héros américains, en tout cas des figures un petit peu de héros complexes, ambivalentes, et là il revient avec un film qui donc cette fois n'est pas tiré d'une histoire vraie, qui n'est pas centré sur un personnage qui a réellement existé. On suit donc ce personnage qui s'appelle Justin Kemp, qui un jour est convoqué pour être juré d'une affaire de meurtre, hein, un homme qui est accusé d'avoir tué sa compagne, et il va se rendre compte pendant qu'on lui expose les faits que ce serait peut-être en fait lui le coupable, et que alors qu'il rentrait tout à fait déboussolé de nuit en voiture, il pensait avoir heurté un cerf, et en fait il se rend compte que c'est peut-être pas un cerf qu'il a heurté. On avait laissé donc Eastwood sur Cry Macho, qui était un film un petit peu boiteux, pourrait-on dire. Qu'est-ce que tu as pensé, Josué, de ce Jury numéro 2?
Alors oui, tu as dit quelque chose d'intéressant dans ta présentation, c'est-à-dire que le film, quelque part, va prendre à rebours une veine que Eastwood a beaucoup travaillé ces dernières années, qui serait celle des héros accusés à tort, au nom du moins, la probité serait remise en question, ou des figures qui seraient aussi potentiellement troubles. C'est-à-dire que je trouve que d'ailleurs ces deux versants potentiellement de sa filmographie se chevauchent un peu, c'est-à-dire qu'on a J. Edgar, American Sniper, et puis on a ensuite des figures qui seraient un peu plus solaires, entre guillemets, que serait Sully ou Richard Jewell, même si pas mal de soupçons l'a encore pesé sur ces deux personnages. Je suis assez d'accord aussi sur le fait que Cry Macho était un film vraiment mineur dans la filmographie d'Eastwood, qui tenait sur quelques scènes et qui tenait aussi sur une espèce de plaisir et presque de veine. Je suis pas sûr que le terme documentaire soit tout à fait juste, mais en tout cas, voilà, de quelque chose de très concret aussi sur le vieillissement du corps de Eastwood acteur. Mais là, pour moi, on est sur un film qui est quand même sur une espèce de densité, de force, qui est quand même un bon cran au-dessus. Ce qui est un peu étonnant, et d'ailleurs je me faisais la réflexion, je citais à la fin de mon texte sur Sully, je disais qu'à l'époque, quand j'avais écrit la critique de Sully, que peut-être ça ouvrait une espèce de voie nouvelle dans le cinéma de Clint Eastwood, qui serait une voie de la sécheresse. Et alors là, je pense qu'on a atteint un point qui est assez passionnant, c'est-à-dire que le film ne serait pas dans une espèce d'épure stricte, et d'ailleurs je pense qu'il faut être un petit peu méfiant sur cette espèce de romantisme aussi de l'épure. Disons qu'il y aurait une espèce de nœud, mais à mon avis qui est aussi une forme de piège dans la manière d'appréhender le film, c'est qu'on a l'impression que c'est un film qui aborde la forme la plus claire et la plus transparente possible pour aborder des enjeux qui seraient les plus troubles et les plus complexes qui soient. Puisqu'on a un personnage qui pense peut-être avoir commis un meurtre sans le savoir, mais qui en fait n'en est jamais certain, et d'ailleurs il y a quelque chose d'un peu suspendu dans le film, on comprend bien que c'est lui, il comprend bien que c'est lui, mais on n'en aura jamais la preuve matérielle, on n'en aura jamais l'assurance, c'est par une logique de déduction d'une certaine manière, et de probabilité. Et puis surtout, on a un personnage qui est dans une forme d'ambiguïté totale, puisque la grande question morale qui se pose au début de ce procès, c'est d'une part, j'ai pas envie d'être découvert. J'ai d'autant moins envie d'être découvert que je suis sur le point d'avoir un enfant, que ma femme est dans la dernière ligne droite d'une grossesse à risque après plusieurs fausses couches, et que donc, quelque part, il y a un espèce d'enjeu vital qui est en train de se jouer. Et en même temps, une forme de culpabilité totale, puisqu'il sait qu'il est en train, quelque part, de juger le cas d'un innocent que tout désigne comme coupable, et que il a quelque part son sort entre ses mains. Et ce qui est assez passionnant, et d'ailleurs assez troublant, moi je trouve, dans la première partie du film, qui est un peu décomposée en trois temps, en trois actes on va dire, moi j'ai beaucoup pensé à un film sorti cette année, d'un cinéaste qui pourtant n'a pas beaucoup de lien avec Clint Eastwood, qui est Trap de M. Night Shyamalan. Il y a vraiment quelque chose d'un peu à peu près similaire sur un personnage qui est pris dans une espèce de dispositif narratif et d'un événement, d'une situation en particulier. Alors le concert d'une pop star dans le premier cas, avec quelque chose du huis clos beaucoup plus réduit dans le temps, et là le processus d'un juré qui est pris dans un procès, et avec une forme de double jeu permanent, c'est-à-dire que en fait le personnage fait preuve mais vraiment d'une espèce de roublardise presque pour à la fois ne pas s'incriminer et en même temps potentiellement pointer que telle personne ne serait pas coupable, et il y a une espèce de double jeu permanent, double jeu qui est aussi une question d'image. Alors ça, je trouve ça aussi très très beau, et pour moi ça raccorde complètement un peu à cette veine de Clint Eastwood que tu commençais à circonscrire, c'est-à-dire on va prendre l'image d'un personnage, on va l'ébrécher, et le film commence vraiment d'ailleurs là-dessus, sur alors une femme aux yeux bandés qui fait suite à la vision de Thémis, donc elle est la déesse de la justice, et en fait on a une scène qui est une scène de conjugale tout à fait banale, où en gros le mari organise une petite surprise pour sa femme, il a préparé la chambre de leur futur enfant, et il lui révèle cette chambre en lui enlevant le bandeau, et donc il y a aussi une espèce de mise en scène tout à fait innocente, qui n'est pas une mise en scène pernicieuse, perverse, mais de quelqu'un qui se met en scène, qui se met en scène en tant que futur père de famille. Et ce qui est un peu troublant, c'est que tout le début du film relève un peu d'une mise en scène de soi, c'est-à-dire qu'ensuite on a une espèce de il y a des invités qui arrivent pour marquer justement le coup et bientôt célébrer la naissance de cet enfant, et on voit le couple qui se tient en amorce, en position surplombante, et qui en fait est en train de se mettre en représentation en tant que couple devant un parterre de proches. Et donc c'est un personnage qui, même s'il n'est pas à proprement parler monstrueux, même si plus le film progresse, plus la zone grise devient étendue, et plus en fait on se demande exactement quel est le fond de ce personnage, et est-ce qu'il a vraiment conscience de la gravité aussi de ce qui est en train de se jouer, on a un personnage qui va se retrouver presque à la fois dans une logique de représentation, mais aussi mis en crise par la mise en scène. Et c'est là, à mon avis, que le film est tout à fait passionnant, c'est-à-dire que cette première partie, sur laquelle je sais d'ailleurs que tu as des réserves, donc je vais te passer la parole, qui ressemble presque à quelque chose d'une forme de... Enfin, c'est vraiment du Eastwood à l'os, quoi. Enfin, c'est vraiment réduit, sans fioritures ou que sais-je. Il y a en même temps, je pense, en permanence des petites subtilités qui sont creusées par la mise en scène, des petites choses qui accrochent à cette forme qui apparemment, en premier abord, et qui l'est de moins en moins d'ailleurs, paraît presque transparente.
Et oui, effectivement, il y a cette espèce de clarté comme ça, en tout cas a priori du film, qui fait que peut-être, tu dis que j'ai un peu moins aimé, je suis quand même très convaincu globalement par le film, même s'il m'a moins, je pense, immédiatement touché ou ému que, je sais pas, un peu le cœur tendre de Richard Jewell, ou même un peu les moments les plus crépusculaires de Cry Macho. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le film va progressivement gagner en complexité, notamment autour de la question de la délibération, qui occupe, on va dire, un petit peu le centre du film, qui est voilà, ce moment où le jury se retrouve à huis clos pour affirmer ou non un verdict de culpabilité, et qui, on va dire, de loin rejoue un petit peu, par exemple, 12 hommes en colère, avec cette particularité que c'est en fait le personnage peut-être moralement le plus trouble de l'assemblée qui va essayer de faire montre de la plus grande magnanimité en disant il faudrait quand même qu'on passe du temps pour évaluer plus sérieusement le cas de cet homme, etc., pas le condamner tout de suite. Donc il y a déjà une espèce de dimension un petit peu retors autour de ce décor qu'on a pourtant a priori déjà vu.
Ça je me permets, je trouve qu'il y a un truc assez passionnant, c'est-à-dire que le film rejoue quelque part deux films de procès qui sont presque devenus les deux films de procès les plus connus. Il y en a un qui est très ancien et un autre qui est très récent. C'est-à-dire que là, on est clairement sur 12 hommes en colère, mais en fait, 12 hommes en colère, c'est la surface, c'est presque la première strate du scénario. En fait, la deuxième strate qui est le plus passionnant, c'est qu'on sait quelque chose que les autres jurés ne savent pas, c'est-à-dire que ce personnage joue un double jeu. Et puis quand même, tout le film est... c'est anatomie d'une chute, enfin, c'est vraiment une femme qui est tombée et on fait quelque part l'anatomie d'une chute, mais en fait cette partie-là du scénario, cette partie-là du procès passe quelque part complètement au second plan, puisque tous les acteurs du procès, le juge, le procureur, les avocats, les autres jurés sont en train de commenter au premier degré l'affaire. Et en fait, ce que nous montre la mise en scène, c'est autre chose. C'est un personnage qui est pris en étau, qui est confronté à un abîme. Et ça, je trouve qu'il y a un détail qui est très très beau, qui est cet écran de télévision qui est mis devant les jurés et d'emblée qui va couper la tête du personnage de Nicholas Hoult, qui lui présente un espèce de reflet complètement obscur. Et tout ce que va nous montrer quelque part la mise en scène, c'est pas le détricotage de cette action, de savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est de voir dans les plis du procès ce qui est un double jeu. Et ce qui est assez, assez troublant d'ailleurs, c'est que moi je trouve que c'est le film de procès le plus passionnant de ces dernières années. Et c'est vrai qu'on pourrait quelque part considérer qu'il fait le remake de films qui sont des films de procès beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus spectaculaires aussi dans quelque part les flux rhétoriques qu'il met en scène, et que ça se joue à quelque chose de beaucoup plus quelque part simple dans le cœur de cette complexité, c'est-à-dire le choix d'un homme qui est en fait à la croisée des chemins et qui doit prendre une voie entre une voie A et une voie B, à savoir se sacrifier ou quelque part condamner quelqu'un à sa place. Et là où je pense que le film est vraiment très complexe, c'est que d'une certaine manière, le personnage n'est pas coupable d'avoir tué, puisque d'ailleurs il a tué sans vraiment le vouloir, et le film ne le montre pas vraiment coupable de ça, mais la charge de la culpabilité repose plutôt sur qu'est-ce qu'il va faire maintenant, et qu'est-ce qu'il va faire après en ayant connaissance de toutes les informations.
Et oui, et ce qui pointe justement à l'abîme dont tu parles, notamment en comparaison avec 12 hommes en colère, c'est que finalement, dans le film de Lumet, il s'agit plutôt d'élucider l'affaire, c'est vraiment une sorte d'enquête, alors que dans le film d'Eastwood, ça repose plutôt sur le dilemme moral, et comme tu l'as dit, le décorum un petit peu du tribunal et du procès, et la surface qui cache en fait la vérité. Et je trouve que pendant tout le film, il y a, notamment par le montage, hein, je trouve que c'est souvent là que se jouent un petit peu les plus belles idées d'Eastwood, il y a cette idée que finalement, tout ce qui est du côté un peu du procès institutionnalisé, c'est un petit peu une sorte de démonstration, de mise en scène, alors que la réalité en fait du choix et de la vérité que le personnage va essayer de trouver, se joue plutôt dans les décors qui sont à côté. Il y a notamment une très belle idée à un moment qui est que les espèces de volets striés, les stores vénitiens qui caractérisent la scène de délibération commencent à se retrouver dans le décor domestique du personnage, ouais. Notamment lorsqu'il fait face à sa femme dans une scène assez, assez importante. Et il y a aussi, je trouve, dans cette idée toujours, la façon dont Eastwood va filmer en fait le tribunal qui n'est pas en fait le lieu de la vérité, puisque tout va se jouer un petit peu hors de ce lieu qui serait pourtant le lieu désigné. Je pense notamment à la façon dont voilà, cette question de la mise en scène prend forme, par exemple avec les plaidoiries des deux avocats. Puis il y a encore une fois une idée de montage que je trouve assez intéressante, qui est que quand les avocats, donc d'un côté l'accusation et de l'autre la défense, vont prendre la parole, en fait le montage entrelace la parole de l'un et la parole de l'autre, ce qui fait que finalement les deux figures se confondent, avec notamment dans une de ces séquences, le personnage principal qui se retrouve un petit peu pris en étau, ouais, entre ces deux versions, et en fait aucune des deux n'a la vérité. Il n'y a que lui qui est un petit peu comme la figure de justice avec sa balance, il n'y a que lui qui est un petit peu entre les deux. Et il y a d'ailleurs un plan un peu ultérieurement dans le film, une sorte de plan large du tribunal où il y a d'un côté la défense, de l'autre côté l'accusation, et le cœur du plan est vide, puisqu'en fait ni l'un ni l'autre n'a accès à ce qui manque vraiment dans ce procès. Et d'ailleurs je trouve que c'est assez amusant de voir que finalement les deux avocats qui jouent une joute devant le public que seraient les jurés, en fait dès que le procès se termine, se retrouvent pour aller dans un bar ensemble et en fait sont très amis. Et donc il y a cette idée un peu d'une performance de la justice qui est toujours à côté de la véritable quête de justice personnelle, on va dire, du personnage.
C'est intéressant ce que tu dis sur l'idée de délucider, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a pas mal circulé dans les films d'Eastwood, c'est-à-dire qu'en fait on a une situation donnée, un attentat, un avion qui doit atterrir en catastrophe, même quelque part aussi la scène inaugurale d'American Sniper, et en gros on va essayer de détricoter une action, ses conséquences, sa portée, etc. Et que là, d'une certaine manière, va y avoir aussi ça par un espèce de jeu de flashback, et à un moment cette idée que le procès est bloqué, et donc il faut quelque part revenir au réel, il faut arrêter de revenir dans sa reconstitution, dans sa projection, et il va falloir revisiter les lieux des mois après, pour quelque part en éprouver la matérialité et trouver une espèce de solution là-dedans. Et en fait, c'est là que le film, bizarrement, ce retour à la matérialité, devient le plus éthéré qui soit. C'est-à-dire, et je trouve cette magnifique, cette scène de rejet où il revient dans un lieu qui, en fait, est un lieu qu'il a déjà fréquenté, qui est le bar où il était, puisqu'en fait, tout ce personnage, en fait, est partie prenante de l'action qu'il est en train de juger. Et là, ça devient un ballet spectral. C'est-à-dire qu'il y a un très bel effet comme ça où vraiment le réel s'estompe dans un flashback avec les ombres qui s'impriment, etc. Et à partir de là, il y a quelque chose de très étonnant. Même dans on ne va pas trop en parler, même la scène du verdict est très étonnante parce que je sais qu'on a eu la même impression en sortant. C'est-à-dire la scène du verdict arrive de manière radicale et il y a une chaise qui est vide et il y a un personnage qui n'est pas là et on saura pas vraiment pourquoi, en fait, on le devine. Et en fait, on a l'impression que c'est une scène de rêve. On a l'impression que c'est un peu la mauvaise conscience du personnage qui se matérialise. Et pour revenir aussi un peu sur la question des procès et de parler de ce double jeu, dans cette ambivalence, cette ambiguïté, alors ça joue sur le montage, je suis tout à fait d'accord, mais ça joue aussi sur d'autres choses, par exemple, sur des effets de détail. Par exemple, le personnage est un ancien alcoolique, et donc il a une pièce que lui ont donné les alcooliques anonymes, qui symbolise le fait qu'il a été sobre pendant 4 ans. Et en fait, cette pièce revient à deux moments dans la mise en scène et devient aussi soit la matérialisation de l'hésitation du personnage et le moment aussi où sa probité quelque part vacille, parce qu'en fait le moment où il prend sa décision, on le comprend, c'est le moment où cette pièce va tomber sur le lieu précisément du crime. Et il y a aussi un moment que je trouve très très fort un peu dans la partie que j'appelle trappe, c'est-à-dire où il y a un moment, il y a un témoin oculaire qui lit aussi dans une logique performative, parce que en fait on lui demande de jouer un rôle et d'ailleurs il se rend compte qu'à la fin on revoit le personnage. Il tient le rôle qu'on lui a demandé de donner, c'est-à-dire celui qui va désigner formellement le coupable qui était là, présent sur la scène, et même s'il n'a pas forcément vu, en fait, il reconnaît tel ou tel, il reconnaît le coupable. Et il y a un moment donc, où il tourne la tête vers le box des jurés, et ce que fait le personnage, qui est vraiment un détail que je trouve génial, le personnage fait tomber sa pièce, qui est donc le symbole de sa probité, pour échapper au regard de ce témoin oculaire et préserver son identité. Et donc, c'est un jeu d'une dualité, d'une certaine perversion du personnage, hein, qui paraît comme ça, de manière un petit peu comme ça, par pointillé. Et ce qui est fou, c'est que plus le film avance, et en effet, plus, à mon avis, il gagne en trouble, il gagne en ambivalence, et en même temps, aussi en émotion, parce que le personnage est quand même accablé, quoi, c'est aussi un peu une figure de martyr. Il est accablé par cette espèce de destin qui s'écrase sur lui, jusqu'à un final qu'on racontera pas, qu'on dévoilera pas, mais qui est quand même une forme de remake d'un autre film de Clint Eastwood. Enfin, c'est un champ contre champ qui fait très fortement penser à une autre fin de Clint Eastwood, elle aussi sur une figure ambivalente, et qui, à mon avis, je pense, la fin la plus sèche et la plus abrupte du cinéma d'Eastwood peut-être, et en tout cas qui ouvre vraiment une espèce de gouffre. Et je trouve que le film est très très fort là-dessus, c'est-à-dire que quand il démarre, on a quand même l'impression de voir une espèce presque de, pas de série B, mais en tout cas de petit thriller. Ce genre même du procès peut avoir quelque chose d'un petit peu compassé et d'un petit peu pas formellement flamboyante, quoi, parce qu'on est quelque chose qui est assez bureaucratique. Et en fait, j'ai l'impression que le film aussi se détache de cet horizon-là, de cet horizon qui pourrait être un peu étriqué du film de procès, pour ouvrir sur quelque chose de complètement autre, qui serait quelque chose de complètement eastwoodien, c'est-à-dire un monde de fantômes. Enfin, ça termine sur les limbes, quoi. Et des limbes qui seraient hantées par quoi ? Par la double culpabilité du personnage d'avoir tué, et surtout parce qu'il a pas l'air quand même très. Il a pas l'air de se sentir très coupable d'avoir tué, il a l'air de se sentir très coupable de. Est-ce que je vais tuer quelqu'un, pour le coup, de manière consciente, et est-ce que je vais être révélé aux yeux de tous ?
Bah, tu parlais de la pièce qui représente un petit peu cet échange entre la probité du personnage, et je trouve que la séquence du verdict à ce titre-là est aussi assez forte, puisque comme tu l'as dit, quand la séquence démarre, on questionne un petit peu est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est une projection, etc. Et quand la séquence se termine, sans trop dévoiler, mais en effleurant un tout petit peu ce qui se passe, on va dire que le personnage principal a gagné quelque chose, et on a l'impression que c'est en fait son absence et donc son retrait de la séquence du verdict qui lui a permis d'accomplir son autre aspiration personnelle, quoi. Il y a une espèce de comme ça un petit peu d'inversion qui est assez jolie.
Cette absence d'ailleurs qui, de mémoire, hein, c'est le problème, c'est qu'on a vu le film très récemment, on l'a vu une fois, mais j'ai l'impression que cette absence est liée aussi à une apparition qui est en fait l'apparition du bébé. C'est que hors champ, dans le même temps, l'enfant est apparu dans le foyer.
Ouais,
ce qui est quand même une idée, là aussi, le montage, qui est une idée. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un corps qui s'absente, le prévenu aussi, et là, tout d'un coup, ce bébé qui apparaît, qui est comme en fait un peu la cristallisation de toute la problématique morale du personnage.
Et voilà, c'est exactement ce jeu dont je voulais parler, et qui rejoint cette première image que tu as dont tu as parlé, de la femme du personnage, les yeux bandés, un peu comme voilà, cette image de la justice, et qui raconte en fait presque dès le début que la vérité, entre guillemets, en tout cas ce qui va résoudre un petit peu le dilemme du personnage, c'est plutôt le regard de cette femme que, on va dire, voilà, une espèce de justice dans l'absolu, institutionnalisée. Et je trouve que c'est ce qui amène en fait le film, comme tu l'as dit, jusqu'à un petit peu une conclusion où ce trouble, cette complexité morale, elle est vraiment, voilà, elle est presque personnifiée par cette espèce de champ contre champ qui en est vraiment l'incarnation assez vertigineuse, quoi.
Oui, puis c'est difficile devant cette fin. Alors bon, moi, Clint Eastwood est quand même quelqu'un, même du haut de ses 94 ans, qui est très en forme, et moi, je ne désespère pas qu'il fasse d'autres films, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que bon, bah là, on arrive à un stade. D'ailleurs, le film est un peu annoncé à tort, ou du moins de manière un peu rapide, que ça serait le dernier film de Clint Eastwood. Il y a quand même une question très concrète qui est son cadre de production aussi, hein. C'est qu'on sent quand même que depuis le changement de direction, la Warner croit beaucoup moins en Clint Eastwood et lui donne moins les coups des franches comme avant. Mais en tout cas, de se dire, il y a aussi une forme d'émotion redoublée, de penser que ce dernier plan et ce dernier effet de montage serait potentiellement la fin de la filmographie d'Eastwood. Et ça ouvre sur une espèce de note suspendue qui, je trouve, rajoute quelque chose de supplémentaire, enfin d'une espèce de presque de cachet, pardon, qui rend la scène encore plus poignante, encore plus émouvante.
Merci Josué et merci de nous avoir écoutés. On remercie également Le Ciné 104 pour leur accueil et on se retrouve dans un prochain épisode.